Merci de m'accueillir et de me donner l'occasion d'intervenir devant vous. J'espère que le micro, ça va bien, vous m'entendez ? Pour un thème, il y aura un petit peu de nostalgie et puis un petit peu d'inquiétude, peut-être même d'effroi à la fin, souvenir et avenir de l'assurance maladie, parce que nous sommes entrés dans une période tout à fait déterminante pour cette construction sociale qu'on considérait encore il y a quelques années comme acquise, comme une espèce de présupposé de la société française et qui aujourd'hui est confrontée à des évolutions qui sont sans doute les pires qu'elle ait pu connaître et qui méritent en tout cas une attention du politique bien sûr, mais surtout de l'ensemble des citoyens, d'où les travaux qu'on essaie de mener sur ce sujet. Alors pour parler d'assurance maladie, il faut revenir à cette construction ou à son histoire. C'est pour ça que le balancement entre souvenir et avenir me plaît beaucoup, parce que beaucoup des mots qu'elle connaît aujourd'hui sont inscrits dans ses gènes ou sont inscrits dans sa construction. L'assurance maladie, la protection sociale, c'est pas une idée naturelle. Pendant très longtemps, la construction des sociétés se fait pour assurer la sécurité à ses habitants. Ça, c'est le modus operandi de la construction des sociétés, mais on va rester sur un schéma dans lequel la protection des habitants, c'est l'armée, la police, un certain nombre de barrières pour défendre contre les risques physiques, contre les agressions possibles. Et puis, il va y avoir une série de ruptures à partir du XVIe, XVIIe siècle qui vont être extrêmement importantes. La première, c'est l'invention de l'assurance. C'est le jour où on se dit, lorsque la religion a un petit peu atténuer sa pression sociale, on se dit, en tout cas en Europe, on peut éventuellement miser sur l'avenir, on peut calculer sur l'avenir, on peut envisager un calcul de probabilité et l'assurance va naître au nord de l'Europe, notamment pour le commerce au long cours. Alors c'était une révolution absolument exceptionnelle parce que à partir de ce moment-là, toutes les activités humaines vont progressivement entrer dans le champ de l'assurance. Aujourd'hui, une tempête dans un pays européen se traduit par des effets économiques de réassurance sur l'ensemble de la planète. C'est une espèce d'effet papillon tout à fait exceptionnel, a priori à l'inverse, puisqu'on essaie justement de réduire l'impact. Et cette invention de l'assurance est une date tout à fait essentielle. Et puis, on va avoir quelques temps après une deuxième idée qui va naître, qui est formalisée par la Révolution française, qui va être développée à la fin du XIXe siècle sous des aspects plus théoriques, qui est la notion de dette sociale. C'est-à-dire qu'on, c'est le moment où on passe d'un champ dans lequel la charité est le moteur de l'aide aux plus démunis, aux indigents, aux infirmes, aux vieillards, comme disent les textes de l'époque, et on va passer à une notion qui est la société a une dette à l'égard des plus pauvres d'entre elles, des plus malheureux d'entre elles. C'est la notion de dette sociale de la Révolution et qui va se développer au XIXe siècle et qui va, grosso modo, aboutir à la doctrine du solidarisme de Léon Bourgeois et de toute l'œuvre sociale de la Troisième République. Et puis, on va avoir une invention tout à fait étonnante, et là on est au cœur de notre sujet, qui est l'invention de la protection sociale par le régime bismarckien. Alors moi, c'est une des premières questions que je me suis posée quand je me suis intéressé à ces sujets il y a maintenant très longtemps. Dire pourquoi est-ce que c'est un régime autocratique, autoritaire, qui va mettre sur pied la première protection sociale, le premier régime de protection. Et en fait, c'est tout à fait cohérent avec la notion de sécurité, c'est-à-dire que l'idée de Bismarck, elle était double. Elle était premièrement de réduire l'influence des socialistes, anarchistes et démocrates de tout bois qui à l'époque étaient assez actifs en Prusse. Avec cette phrase célèbre, messieurs les démocrates pourront jouer de la flûte quand le peuple saura que les gouvernants s'occupent de son bien-être, à quelque chose près. Donc il y avait une visée politique immédiate, puis il y a une deuxième visée qui était tout aussi importante, qui était la protection sociale, c'est une façon de consolider la nation, de donner confiance dans l'avenir, de dégager les populations de la crainte de la maladie, de l'accident, etc., et donc de les inciter à être plus performants économiquement, à être en meilleure santé, donc plus productifs dans les usines, éventuellement être en meilleure santé pour aller faire la guerre aux voisins français, puisque à l'époque, quand même, c'est une tension très forte qui existe. Donc c'est l'assurance maladie en tant qu'investissement collectif, investissement national, et pas simplement en tant que protection de l'individu, comme on va le voir ultérieurement. Et puis, on aura, au début du XXe siècle et jusqu'au rapport de Lord Beveridge, l'idée que progressivement, cette protection, elle peut prendre une vocation universelle. Et on va faire de la protection sociale un élément du pacte social, du pacte politique qui unit les pays lorsqu'ils se développent. Et évidemment, c'est à ce stade que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, cela dit, ça c'est le cadrage très général et très sommaire et caricatural, mais quand on regarde l'histoire de notre système français de sécurité sociale, d'assurance maladie plus exactement, il a été marqué par cinq blocages, conflits, particularités qui méritent attention. La première, c'est que dans notre pays, la sécurité sociale, la protection sociale, enfin l'idée de protection sociale a au départ été handicapée par le fait que la Révolution française avait proclamé l'égalité de tous. Et en proclamant l'égalité de tous, on rappelle qu'elle a notamment produit un certain nombre de textes, mais dont la loi Le Chapelier, qui interdit les corporations. Quand on interdit les corporations pour éviter qu'on ne puisse devenir boulanger que si on est fils de boulanger, on pose un principe qui va pendant très longtemps faire obstacle à l'émergence du syndicalisme, parce que c'est bien un regroupement de corporations, et faire obstacle à l'émergence des sociétés de secours mutuels, parce que là encore, c'est une réunion de personnes pour défendre des intérêts, pour protéger un certain nombre d'intérêts. Et donc le droit français, la politique française va être très réticente devant la construction de ce monde. Et d'ailleurs, on le paye encore aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on a un pays dans lequel les pouvoirs syndicaux sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres pays. C'est vraisemblablement dû à ce retard historique. Pour la protection sociale, ça va jouer, puisque la mutualité va se développer dans des conditions difficiles. Hein. Les premières sociétés de secours mutuels vont être créées illégalement. Les ouvriers qui en sont membres seront pourchassés, condamnés. Enfin, on est dans un champ dans lequel c'est lourd. Et en fait, la protection sociale va apparaître assez tardivement du fait de cette perception que c'est un élément de regroupement catégoriel, corporatiste, etc. Et il faudra attendre en fait 1928 pour que la première loi sur l'assurance maladie soit adoptée dans notre pays, même si elle ne sera pas appliquée et modifiée dès 1930, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. La deuxième particularité de notre système, c'est l'antagonisme tout à fait profond, originel, entre le corps médical et les pouvoirs publics. C'est aussi une spécificité française, et c'est le fruit de cette histoire, qu'on peut résumer de la façon suivante. En 1789-1790, les révolutionnaires vont avoir une ambition sociale, et pas simplement une ambition politique. Alors pas que la Déclaration des droits de l'homme dans les cartons, il y aura aussi une œuvre sociale, notamment sous l'égide du comité de mendicité. Et cette œuvre sociale, elle va produire notamment la création d'agences de secours. Je cite bien les termes, ce sont des termes de 1793. Donc les agences, c'est pas nouveau, c'est pas les derniers fruits de l'imagination politique de la fin du XXe siècle. Et ces agences de secours, elles comportent toute une série de mesures, mais elles vont en particulier créer des officiers de santé. C'est-à-dire qu'on va attacher aux agents de secours des officiers de santé pour soigner les populations, notamment dans les zones rurales, c'est-à-dire 95 à 99% de la population. Ces officiers de santé vont être en fait des médecins au petit pied, c'est-à-dire qu'on va les former par un compagnonnage pendant 3-4 ans auprès d'un médecin déjà installé, avec une formation dans une école, mais pas dans une université. Et donc, évidemment, il va y avoir une réaction extrêmement forte, violente, puissante des docteurs en médecine. Les docteurs en médecine vont percevoir le pouvoir d'État incarné par les révolutionnaires comme étant hostile au corps médical. Comme par ailleurs, il avait, à travers la suppression des corporations, la loi Le Chapelier que j'évoquais tout à l'heure, également supprimé l'obligation du diplôme de docteur en médecine pour exercer la médecine, puisque à partir du moment où il n'y a plus de corporations, tout le monde pouvait exercer la médecine. Hein, pendant 10 ans en France, un peu plus de 10 ans en France, de l'année 1790 à 1803, on a été dans une situation dans laquelle la médecine pouvait être exercée par n'importe qui. Donc entre cette mesure et puis la création des officiers de santé, le pouvoir politique, les pouvoirs publics vont être perçus par le corps médical comme voulant l'asservir, voulant le réduire, réduire son influence et lui mettre dans les pattes, si j'ose dire, des médecins mal formés, de piètres compétences, qui ne sont compétents que dans un département, qui ne peuvent pas faire les grandes opérations. Enfin, il y a tout un débat pendant cette période. Et pendant un siècle, donc c'est extrêmement long, le corps médical va se structurer va forger son identité en opposition à ces officiers de santé qui ont été créés. Ils obtiendront gain de cause, puisqu'en 1892, les officiers de santé sont supprimés. Les derniers continueront à exercer jusqu'au début des années 1920-1930. Mais en tout cas, on n'en forme plus à partir de 1892. Mais historiquement, les pouvoirs publics sont bien perçus et vont rester ancrés comme étant l'ennemi d'un corps médical qui doit toujours rester sur la défensive et qui va le montrer au fil du temps dans des conditions beaucoup plus fortes que ce qui a pu se produire dans d'autres pays. Et ça va se traduire par notamment une caractéristique très grande du corps médical, c'est que pour être resté à l'écart des pouvoirs publics, il va privilégier l'exercice individuel, l'exercice isolé du médecin. Le médecin de campagne de Balzac, par opposition à l'officier de santé qui était Charles Bovary, si vous voulez, cette construction d'un médecin qui doit travailler seul, qui va refuser les dispensaires quand les dispensaires vont apparaître à la fin du XIXe siècle, qui va refuser toute forme de médecine collective et qui va d'ailleurs refuser la santé publique. Puisque très paradoxalement, la France invente la santé publique avec des médecins et des auteurs prestigieux à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, que ce soit Parent du Châtelet ou Villermé. Et puis, lorsque la santé publique se met en œuvre à partir de 1850, la France disparaît du champ de la santé publique. On ne va pas construire de service de santé publique, on ne va pas mettre en œuvre très tardivement les mesures, y compris la vaccination obligatoire, qui vient en France pratiquement dans les derniers pays d'Europe. C'est-à-dire que la santé publique va être refusée, car la santé publique, c'est une santé dans laquelle l'État intervient. Par opposition à la santé, à la médecine individuelle, individualisée, celle qui fait l'honneur du médecin. Quand on reprend les textes, il faut relire le concours médical du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, où les médecins écrivaient de longues lettres, extraordinairement d'ailleurs intéressantes, et où on voit bien qu'il y a cette défiance permanente dans l'idée que les pouvoirs publics veulent les assujettir. Cet isolationnisme du corps médical va se donc retrouver à travers l'exercice individuel, mais va se retrouver également dans la réticence à l'évaluation. L'évidence-based médecine, c'est une idée nouvelle en France. Je me souviens d'une période, dans les années de 1985-1990, où l'idée d'évaluation était perçue par la communauté médicale comme une intrusion des pouvoirs publics pour pénétrer le colloque singulier, venir interférer dans leurs pratiques médicales. Un très beau rapport sur le développement de l'évaluation médicale avait été fait par le professeur Papernick. Il a été mis soigneusement sur une étagère du ministère. Il y est resté pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau rapport qui reprenait à peu près les mêmes démarches fait par... je vais retrouver son nom. Armogat, le docteur Armogat, qui a proposé un certain nombre d'évolutions, et il a fallu de longues années et la persévérance d'Yves Matillon à la tête de l'ANDEM pour que très progressivement et très doucement l'idée d'évaluation puisse être acceptée, ne plus être rejetée et être progressivement, adoubée par l'ensemble du corps médical au point de pouvoir transformer l'ANDEM en ANAES, Agence Nationale pour l'Accréditation et l'Évaluation en Santé, et de la transformer, phase ultime, en haute autorité de santé, qui est l'aboutissement de cette démarche engagée dans les années 1980. Mais là encore, on voit cet écart entre une médecine qui, bien que fondée sur des bases scientifiques depuis longtemps, va refuser le dispositif d'évaluation pendant très longtemps. Alors, ce deuxième élément de construction est évidemment très important. Il a conduit à ce qu'il y ait une relation très ambiguë entre les pouvoirs publics et l'État et les professions de santé jusqu'à une date récente. Si on regarde ce qui s'est passé avec la vaccination contre la grippe A H1N1, on a une manifestation de la méfiance non plus des médecins à l'égard de l'État, mais de l'État à l'égard des médecins, où il va y avoir une réflexion assez surprenante et incompréhensible aujourd'hui, mais qui néanmoins s'est appliquée en grandeur réelle, qui va être de dire « on a un système de santé très développé, mais on va faire de la vaccination dans des centres administratifs ». Élément tout à fait caractéristique de cette construction où les professions de santé et les pouvoirs publics n'arrivent pas à partager un projet collectif qui s'appelle la santé publique. Ça va se traduire, troisième élément, cette construction historique, par l'organisation d'une dichotomie professionnelle entre médecins et autres professions de santé, tout à fait particulière, en tout cas beaucoup plus marquée en France que dans bon nombre de pays étrangers. Les docteurs en médecine vont emporter donc leur combat contre les officiers de santé, mais ils vont avoir la hantise de voir ressurgir des équivalents officiers de santé. Et donc, à partir de la fin du XIXe siècle, toutes les compétences nouvelles, toutes les évolutions de l'art médical qui vont se produire, vont être réservées au monopole des docteurs. Et on va être dans une situation que l'on connaît aujourd'hui, où nous avons d'un côté les médecins, de l'autre côté les autres professions de santé, et d'ailleurs ça se traduit même dans les termes. Dans le Code de la santé publique, on parle des auxiliaires médicaux. Ces auxiliaires médicaux, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes, ont été formés pendant longtemps dans des écoles, date récente, où on a vu l'université s'ouvrir à ces professionnels. Et évidemment, ces professions de santé n'avaient ni droit de prescription, ni la plupart des prérogatives attachées à l'exercice de profession médicale. Il faut, pour que la situation évolue, on le voit depuis, toute petite dizaine d'années, notamment à travers les rapports du professeur Berland, on voit s'ouvrir la communauté médicale à l'idée qu'il peut y avoir un partage de compétences, ce qu'on appelle maintenant des coopérations interprofessionnelles depuis la loi HPST, pour répartir un certain nombre de compétences. Mais il a fallu attendre de mémoire 2007 pour que les infirmières aient le droit de procéder à la vaccination antigrippale, et encore, ce n'est pas permis pour la primo-injection. Donc on est dans un champ dans lequel les délégations de compétences ou les partages de compétences se font, mais de façon extraordinairement mesurée, parce qu'il y a, encore une fois, viscéralement l'idée que si on a une hiérarchie des professions de santé ou une continuité dans les professions de santé entre les différentes catégories, il y a un risque de voir progressivement des fonctions médicales être assumées par d'autres, comme l'avaient tenté les officiers de santé. Quatrième particularité historique importante, c'est évidemment la date clé, c'est 1918. Une date qu'on ne trouve pas dans les manuels de droit social, mais qui est une date fondamentale, parce que 1918, c'est évidemment la fin de la Première Guerre mondiale, et c'est surtout pour notre sujet, le retour de l'Alsace-Lorraine dans le giron national. Ce retour de l'Alsace-Lorraine a une conséquence évidente, c'est que du jour au lendemain, nous avons une grande région en France, deux régions, qui vont avoir un système de protection sociale alors que le reste du pays n'en a pas. Puisque, évidemment, les lois bismarckiennes continuent à s'appliquer en Alsace-Lorraine. Et dans un pays pétri d'égalité, évidemment, cette différence en son sein entre une région qui a une protection sociale et tout le reste du pays qui n'en a pas, c'est un problème politique majeur. Et à partir de 1918, 1919, 1920, enfin, le temps de sortir des affres de la guerre, en plus, la grippe espagnole a quand même beaucoup marqué le pays à cette période, mais très vite, les autorités politiques vont élaborer des projets, et on va voir un projet de loi cheminer. À l'époque, le projet de loi prenait 8 à 10 ans sur les grandes lois sociales, donc c'est à peu près ce qui va se passer. Et qu'est-ce que fait ce projet de loi? Il est très simple. Il étend grosso modo l'assurance maladie telle qu'elle est connue en Alsace-Lorraine, donc l'assurance maladie bismarckienne à l'ensemble des salariés de l'industrie. On est sur le champ de l'industrie, sur une protection sociale universelle. Alors, c'est très intéressant parce que les lois bismarckiennes, elles reposent sur quoi? Et c'est d'ailleurs toujours un peu le substrat de l'assurance maladie en Allemagne, sur une médecine de caisse. Donc les médecins sont payés pour l'essentiel par les caisses, à travers le principe du tiers payant, sur un champ qui est assez professionnel et qui va donc ne pas laisser une totale liberté de choix du malade dans le système de protection sociale. Donc on a des contraintes sur l'accès, mais néanmoins un système de protection sociale extrêmement efficace et protecteur dans ces pays. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce travail législatif abouti à la loi de 1928 que j'évoquais? Mais dans le même temps, à partir de 1920, les syndicats médicaux se disent « Oh là là, on nous refait le coup des officiers de santé. On va nous remettre sous la coupe de l'État à travers son expression, qui est d'ailleurs assez fausse en droit, mais enfin, peu importe, qui sont les caisses d'assurance maladie. Si on fait un régime bismarckien en France, on va dépendre des caisses, on va être lié aux caisses, notamment pour la rémunération, Et ça, il n'en est pas question. On ne nous fera c'est bis repetita, certainement pas. Donc, les médecins se mobilisent. Ils se mobilisent tellement qu'ils vont réussir à s'unir, ce qui n'est pas si fréquent que ça, puisque les deux syndicats médicaux qui existaient vont fusionner dans un congrès extrêmement resté célèbre en 1927, congrès qui invente la charte de la médecine libérale. Ils vont fusionner sur une idée de commune qui est la médecine libérale ne peut s'exercer que si il y a cinq principes fondamentaux qui sont respectés. Certains sont évidents, le secret médical, beaucoup moins évident, et notamment c'est l'entente directe sur les honoraires. Je dois être face à mon patient, me faire payer par mon patient sur un honoraire que je détermine librement avec lui. Deuxièmement, la liberté d'installation des médecins. Il y a par ailleurs le libre choix du malade et la liberté thérapeutique ou de prescription. Alors, cette charte de la médecine libérale de 1927, elle est évidemment exactement contraire, c'est pour ça qu'elle est inventée, rédigée à l'époque, à la loi de 1928, et la loi de 1928 ne sera pas appliquée. Elle est remplacée, abrogée, modifiée, mais en fait abrogée dans les faits, par la loi de 1930, et la loi de 1930 établit ce que nous connaissons, c'est-à-dire une médecine libérale fondée sur les cinq principes que j'ai évoqués. Et cette construction est évidemment très importante parce qu'en 1945, quand on crée la sécurité sociale, quand on met en œuvre le plan du Conseil national de la résistance, un plan complet de sécurité sociale, l'assurance maladie est construite sur les mêmes bases. On intègre dans le nouveau code de la sécurité sociale les principes qui ont été fixés en 1930, enfin dès 1927, pour s'opposer aux lois bismarckiennes. Et à partir de là, on est dans un schéma dans lequel on a l'assurance maladie que l'on connaît, c'est-à-dire une totale liberté d'installation, y compris comme médecin conventionné, parce qu'on pourrait imaginer la liberté d'installation non conventionnée, mais les médecins conventionnés ont totale liberté d'installation, et surtout, il n'y a pas de tiers payant. Le tiers payant est l'ennemi absolu de la médecine libérale en 1928-30, il l'est encore en 1945, il l'est encore en 1990, il faut lire les écrits des syndicats médicaux en 1990, alors pourtant que le tiers payant s'est développé très largement dans les officines pharmaceutiques, dans les laboratoires de biologie médicale, dans les cliniques, où, je le rappelle, est quand même exercé la médecine libérale. Néanmoins, ce tiers payant reste tabou et va être une pierre d'achoppement très longue, pendant très longtemps, entre les pouvoirs publics. Et il a fallu attendre de mémoire l'an dernier, 2009, pour qu'un syndicat médical, MG France, annonce qu'il était favorable à la généralisation du tiers payant. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, puisqu'il y a eu un changement de président à MG France, mais en tout cas, c'est très tardif que l'on voit cette évolution. Et d'ailleurs, le débat sur est-ce que l'on peut exercer librement, de façon en indépendance médicale, qui est une valeur fondamentale, la médecine, quand on est en tiers payant par les caisses, m'a toujours paru assez saugrenue, et en tout cas extraordinairement infamante pour les médecins hospitaliers qui sont rémunérés par un service public, et qui, à ma connaissance, exercent la médecine dans une réelle indépendance et déontologie médicale. Mais il reste que, juridiquement, on est dans un schéma dans lequel ces principes sont inscrits et la sécurité sociale va se construire à partir de 1945 sur la base de ce dispositif. Ce dispositif va d'ailleurs aller plus loin puisque, en 1945, la sécurité sociale est construite sur l'idée d'une démocratie sociale, c'est-à-dire qu'on va confier aux partenaires sociaux, aux patronats et aux syndicats, la négociation avec les médecins de l'organisation de toute la médecine de ville. C'est une délégation tout à fait essentielle parce que, on le voit, ce n'est pas l'État qui va intervenir. Ce sont les partenaires sociaux qui vont organiser ça. Alors, ça peut se comprendre sur des fondements théoriques à l'époque, à travers le fait que la sécurité sociale est construite pour, non pas rembourser des consultations médicales, mais fondamentalement donner des revenus de remplacement. On construit la sécurité sociale pour l'assurance maladie, une très grande part de l'assurance maladie en 1945, c'est les indemnités journalières, c'est le salaire de remplacement. Comme la retraite est un salaire de remplacement et comme les allocations familiales sont des compensations de charges de famille. Mais évidemment, ce système de délégation fait que l'État est très extérieur au schéma, ce qui convient parfaitement aux syndicats médicaux qui ne voulaient pas que l'État entre dans ce dispositif. Ça a évidemment des effets tout à fait préjudiciables puisque le système conventionnel qui va se construire progressivement entre 1945 et 1971, puisqu'il y aura des échecs successifs, je rappelle qu'entre 1945 et 1971, le tarif de la consultation médicale reste variable d'un département à l'autre, et dans beaucoup de départements, il est totalement libre pour les médecins. Donc on a une sécurité sociale qui rembourse extrêmement mal les consultations. On n'est pas du tout. L'âge d'or de l'assurance maladie, c'est 1980, c'est pas 1945. En termes d'accès aux soins, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. 1945, on a une sécurité sociale qui est extrêmement limitée dans ses remboursements. On rembourse un franc sur deux, pardon, à l'époque, même un ancien franc sur deux, en 1950. alors qu'on va rembourser presque 80% des soins en 1980. Donc Mais on est sur un schéma dans lequel ce système conventionnel qui va s'élaborer progressivement pour obtenir des tarifs opposables, c'est-à-dire le fait que le tarif de la consultation médicale soit fixé d'un commun accord par les médecins et les caisses de sécurité sociale, ne va aboutir qu'en 1971, donc très tardivement, et ne s'appliquera en pratique que pendant 10 ans, puisqu'à partir de 1980, le secteur 2 à honoraires libres va être inventé et va progressivement, tordre la structure qui avait été établie en 1971. Donc cette construction, là encore, a pour conséquence que les affaires de la médecine se règlent non pas avec l'État, entre l'État et les médecins, mais entre les caisses de sécurité sociale, ce qui est un peu différent, et le corps médical. C'est également une résurgence de cette opposition originelle. Et puis, cinquième élément très important également, caractéristique de notre système, c'est qu'on va implicitement construire un système de santé qui est entièrement axé sur le soin. Parce que le soin, c'est le colloque singulier, c'est la relation individuelle entre le médecin et le malade, c'est une relation dans laquelle les pouvoirs publics n'entrent pas. Et tout ce qui est dispositif, organisation de la prévention, va être très très malmené, voire ignoré en France. La loi de 1902 sur la politique de santé publique est une victoire à la Pyrrhus des hygiénistes, puisqu'elle est enfin, des mesures de santé publique sont votées par le Parlement, elles ne seront pas appliquées. Et ce qui se construit au XXe siècle, c'est un système qui repose fondamentalement sur un médecin qui soigne et un médecin qui prescrit du médicament. C'est ça l'origine. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué que pendant très longtemps, c'est en train de changer. Mais pendant très longtemps, la relation entre le médecin et le malade, c'est le médicament en France, alors que ce n'est pas vrai dans la plupart des autres pays. C'est pour ça qu'on est les plus gros, on a été pendant longtemps les plus gros consommateurs, en tout cas prescrits en médicaments de tous les pays à système de protection sociale. Et ce système de santé privilégiant le soin va nous permettre de mettre en place un système de santé absolument exceptionnel dans ce domaine. La réussite est totale. On aura le plus grand nombre de lits d'hôpital par habitant, on aura le plus grand nombre de médecins par habitant, on aura une consommation médicamenteuse par tête tout à fait exceptionnelle, donc, et des résultats sanitaires, c'est-à-dire une capacité de soigner tout à fait exceptionnelle. Donc la réussite est au rendez-vous, on a construit un beau système de soins. Le problème, c'est que ce système de soins, il n'est que de soins. Et qu'en matière de prévention, il est totalement défaillant, et il sera défaillant tout au fil du XXe siècle, mais il sera particulièrement, alors c'est plus que défaillant, il sera fautif lorsqu'une pathologie va apparaître, émerger, contre laquelle la thérapeutique ne peut rien, qui est le sida. Et si la France va connaître le drame contaminé de façon exponentielle par rapport à la plupart des autres pays, avec un nombre de victimes pour les transfusés de contamination post-transfusionnelle, c'est parce que notre système de santé public, il y a d'autres facteurs, mais fondamentalement parce que notre système de santé public a complètement ignoré tous les messages de précaution qui pourtant avaient été diffusés par la communauté scientifique, qui avaient été diffusés par la Direction générale de la Santé, une circulaire de 1983 très intéressante qui va être ignorée, et on aura donc une catastrophe sanitaire, une défaite de la santé publique, pour reprendre le mot d'Aquilino Morel, tout à fait exceptionnelle, hors du commun, et qui va faire voler en éclats le paradigme du système de curatif que nous avions construit pendant le siècle qui précédait. Et c'est à partir de là que la santé publique va retrouver un tout petit peu de droit de cité en France, à travers la notion de sécurité sanitaire, qui apparaît à ce moment-là, à travers le renouveau des politiques de prévention et toute une série de dispositions. Alors, dans ce contexte, ces souvenirs racontés de façon très caricaturale, j'en suis désolé, mais c'est pour tenir les délais, sur l'assurance maladie, comment se présente l'avenir de l'assurance maladie, son présent et son avenir? Premièrement, par le fait que, même si ça peut paraître surprenant quand on dit ça aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que l'État se mêle de tout en matière de santé, il faut bien mesurer que c'est quelque chose de très très récent. L'État est le nouveau venu sur le champ de la santé. Au XIXe siècle, c'était une compétence municipale. L'État n'avait pas de compétence, sauf de rares reprises pour les épidémies encore. Au XXe siècle, je voulais rappeler, c'est les partenaires sociaux qui vont être les acteurs privilégiés de la construction de la santé, notamment de la médecine de ville. Et même sur le secteur hospitalier, qui est le plus naturellement proche de l'État, il faut quand même se souvenir que l'hôpital ouvert à tous, qui soigne toutes les catégories de la population, qui est un investissement collectif, il n'apparaît véritablement qu'avec les ordonnances de Bray et avec la question du service public hospitalier en 1970 de la loi de Boulin. Auparavant, il y a une évolution à partir des années, à partir du Front populaire, avec des textes qui vont suivre. Mais enfin, on est quand même encore dans un champ où l'hôpital accueille plutôt essentiellement les catégories les plus démunies, les catégories plus favorisées ne vont pas à l'hôpital. Et donc, la construction d'un système hospitalier national piloté par l'État, c'est vraiment quelque chose qui se produit sur le tard. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est progressivement, à travers trois vagues successives, l'État intervenir sur ce champ. Pour l'hôpital, à travers la construction du service public hospitalier, même si aujourd'hui cette notion a été abrogée par la loi HPST, en tout cas par la loi du 21 juillet 2009. Mais enfin, première étape, c'est les années 70, c'est les années 60-70, avec cette construction d'un service public hospitalier. Deuxième étape, c'est la maîtrise des dépenses de santé. Car le système dont on vient de parler, il a de très grands avantages pour nous tous. Nous sommes très libres de nous y insérer, pour accéder aux médecins, pour les prescriptions, pour le choix, etc. Mais la contrepartie, c'est qu'il n'a pas de mécanisme de régulation, à la différence de la plupart des systèmes. Et donc, on est dans un champ dans lequel la maîtrise des dépenses de santé va imposer, à partir de la fin des années 80, au début des années 80, après les deux chocs pétroliers de 1913 et 1979, va imposer à l'État, lorsque les ressources d'assurance maladie ne vont plus croître aussi rapidement que pendant les Trente Glorieuses, d'intervenir pour assurer de la régulation. Et puis, troisième élément, évidemment, l'État va intervenir, j'allais dire malheureusement, en tout cas retrouver son rôle naturel ou trouver son rôle naturel de protecteur de la santé publique après le drame du sang contaminé, où il va y avoir une transformation assez profonde du système. Alors, cette apparition de l'État sur un secteur dont il était absent, dans un pays très colbertiste, donc on est dans un vrai paradoxe. La France a construit un système politico-administratif très présent sur la plupart des secteurs, l'éducation nationale, les chemins et chaussées, des services publics, la SNCF, EDF, etc. Donc beaucoup de services publics, sauf sur la santé. Sur la santé, si les officiers de santé avaient trouvé leur rythme de croisière, s'ils avaient été pris, si on avait multiplié les médecins, on aurait eu une santé nationale comme on a une éducation nationale. C'était à peu près ça l'idée. Mais cette construction d'une santé nationale ne s'est pas faite, et donc on est dans un schéma dans lequel l'État a du mal à trouver sa place. Alors, à partir de là, quelles sont les perspectives pour cette assurance maladie? Premièrement, elle a formidablement réussi. On a une prise en charge, elle est universelle depuis 1999, depuis la loi créant la CMU, qui a étendu à 100% de la population, à l'exception des étrangers en situation irrégulière, ce qu'il ne faut pas oublier, mais en tout cas à 100% de la population résidente régulièrement en France, l'assurance maladie, je dis bien l'assurance maladie de base, je ne parle même pas de la CMU, souvent on pense à la protection complémentaire pour les plus défavorisés, mais l'assurance maladie universelle pour tous en France, c'est 1er janvier 2000 avec la loi CMU. Donc ça s'est construit, on a comme effet de cette construction, un accès aux soins qui s'est très très largement démocratisé et dans des conditions d'égalité assez remarquables, en tout cas les comparaisons internationales le montrent, et une efficacité sanitaire, n'en déplaise aux contempteurs du système, qui est bonne, puisque lorsqu'on regarde l'efficacité thérapeutique, l'efficacité de prise en charge, on s'aperçoit qu'on est souvent dans les deux ou trois pays qui ont les meilleurs indicateurs, donc même en efficacité sanitaire, on a un bon système. En revanche, on est sur un système qui, premièrement, comporte des inégalités sociales particulièrement fortes, notamment sur la mortalité prématurée. Donc on a, par rapport aux inégalités sociales, un déficit de construction du système qui repose très largement sur le fait qu'on a développé le système curatif et pas le système préventif. Et puis, on a un système qui, en termes de régulation des dépenses, je le disais, n'a pas de régulateur naturel. Il l'a eu pendant un moment sur l'hôpital à travers le budget global, qui était un moyen assez rustique et assez dur, mais qui a été extraordinairement efficace en termes de régulation des dépenses hospitalières entre 1983 et 2003. Et sur la médecine de ville, il n'en a jamais connu. Toutes les tentatives qui ont été faites entre 1988 et 2002 de régulation de l'offre ont échoué, ou en tout cas n'ont pas produit leurs effets. Et on est dans une situation où aujourd'hui, on a un système qui a permis à la population d'accéder au système de santé, de s'habituer à l'accès, et c'est une excellente chose, au système de santé, et qui se trouve maintenant confronté à la situation qui est la suivante, qui est une hausse des dépenses de santé relativement forte. Je rappelle quand même que les dépenses de soins en France sont passées de 2,5% de la richesse nationale, ce qui était très peu de choses, en 1950, à 8,7% en 2008. Donc c'est une... quand on parle de richesse nationale, quand on parle du PIB, un point de PIB, c'est absolument considérable. Donc quand on passe de 2,5 à 8,7, c'est une révolution qui se produit. Elle s'est produite. Et je dirais que non seulement elle s'est produite, c'est-à-dire qu'on a plus dépensé pour la santé, mais en plus, nos parents ont accepté de cotiser, de voir leur cotisation augmenter plus vite que le rythme des dépenses de santé, pour mieux rembourser, mieux prendre en charge ces dépenses. Donc il y a eu un effort collectif, un effort de solidarité nationale absolument exceptionnel, historique, qui s'est produit entre 1950 et 1980. Depuis 1980, on est dans un schéma dans lequel les dépenses restent prises en charge à un niveau à peu près constant. Jusqu'en 2004, on était resté entre 79 et 77% de prise en charge des dépenses de soins. Depuis 2004, ça a baissé assez significativement. L'espace de 4 ans, on est passé de 77 à 75,5. Donc il y a un effet d'affaiblissement. Mais néanmoins, si on regarde de loin, 75% de prise en charge des dépenses de soins, ça reste très élevé. Et quand on fait des comparaisons internationales, ça reste très élevé. La difficulté, c'est que ce taux de prise en charge des dépenses de soins dissimule en fait ou cache deux évolutions complètement différentes. Premièrement, et c'est fort heureux, la prise en charge à 100% des affections de longue durée et à 90-92% des dépenses hospitalières. Donc pour les problèmes graves de santé, on a un système qui reste un système très protecteur. Mais comme la part consacrée à ces dépenses de maladies graves, disons pour résumer le propos, tend à augmenter plus rapidement que le reste, l'assurance maladie, la CNAM, a fait une étude très intéressante sur, je crois, la période 2005-2015, montrant que les affections de longue durée, qui représentaient de mémoire 60% des dépenses de soins, des remboursements d'assurance maladie en 2005, allaient rembourser représenter 70% en 2015. Et ça, en l'espace de 10 ans, c'est une transformation également tout à fait impressionnante. Alors, cette concentration de la dépense sur les malades, sur les 15% de malades les plus gravement atteints en France, a pour conséquence, puisque le taux global est resté constant, que le taux de prise en charge des dépenses de soins courants a, lui, une forte tendance à baisser. Et la crise profonde de l'assurance maladie aujourd'hui est liée à cette prise en charge des soins courants, ce que j'appelle les soins courants, c'est-à-dire hors hospitalisation, hors affection de longue durée. Cette prise en charge des soins courants, c'est quand même ce que 80% de la population identifie comme étant la prise en charge par la Sécurité sociale. Et ce taux de remboursement pour ces soins courants, que j'appelle le taux apparent de remboursement, parce que c'est celui que la plupart des gens voient en bas de leur feuille de relevé de caisse primaire d'assurance maladie quand ils reçoivent le remboursement, il est entre 50 et 55% aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que l'assurance maladie rembourse pour l'immense majorité de la population 1 euro sur 2. Et ça, c'est une transformation absolument majeure, parce qu'évidemment, ça veut dire que l'essentiel, une part très importante qui peut devenir essentielle de l'assurance maladie, de la protection maladie, va être assurée par quoi ? Par les assurances complémentaires. Et ça, c'est un changement qui est majeur. Les assurances complémentaires ont toujours été incluses dans l'idée d'assurance maladie, puisque dès 1945, on met un ticket modérateur pour éviter que, vous savez, la sécu c'est bien, mais en abuser ça craint. C'est un slogan qui n'a pas été inventé il y a 10 ou 15 ans, c'est un slogan qui est présent dans les esprits dès 1945 et qui conduit à ce que ce ticket de 20% soit laissé à la charge des patients. Et dès 1945, on dit il faut donc des assurances complémentaires, des mutuelles ou des institutions de prévoyance, donc des institutions paritaires ou mutualistes, pour prendre en charge cette part complémentaire. Mais pendant très longtemps, jusque dans les années 90-95, les complémentaires, c'est-à-dire les mutuelles, pour l'essentiel, vont se concevoir comme étant le complément de l'assurance maladie et vont être les grands défenseurs de l'assurance maladie. Toutes les grandes mobilisations sociales pour s'opposer à l'augmentation du ticket modérateur, à la diminution de la prise en charge des ALD, vont être portées par la mutualité. Et depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, la posture est en train d'évoluer. Les assurances maladies complémentaires, dans lesquelles les assurances privées sont entrées, sont en très fort développement, puisque l'assurance maladie se retire, donc il y a un champ qui s'ouvre pour ces protections complémentaires, et sous le fait de l'évolution du temps, des directives européennes, enfin toute une série de facteurs, dans une situation de concurrence accrue entre les différents organismes complémentaires, elles vont rentrer dans une logique qui est une logique de structuration d'une offre d'assurance, que ce soit par la mutuelle, par les institutions de prévoyance ou par les assurances privées. Et ces assurances ont une différence fondamentale avec l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, comme on l'entend de temps en temps, s'il y a un point d'assurance maladie qui n'est plus pris en charge par la collectivité, ça sera pris en charge par les complémentaires, donc ce n'est pas grave, puisqu'il y a 93% des Français qui ont une complémentaire. D'abord, c'est faire peu de cas des 7% qui n'en ont pas et qui sont en général dans les catégories les plus modestes, juste au-dessus du seuil CMU. Mais indépendamment de ça, c'est assimiler ce qui est une perversion absolue, l'assurance maladie et l'assurance maladie complémentaire, qui n'ont pas du tout les mêmes modes de fonctionnement. L'assurance maladie, c'est quoi? C'est la solidarité des biens portants avec les malades. C'est je cotise toute ma vie en espérant ne jamais rien recevoir. C'est je cotise en fonction de mes revenus et je reçois en fonction de mes besoins. Ça, c'est les principes de l'assurance maladie. C'est la CSG, on cotise en fonction de ses revenus. Si vous gagnez 10 fois plus, vous cotisez 10 fois plus. Donc il y a une très forte redistribution sociale par les prélèvements pour la maladie. Et puis, vous ne payez pas du tout en fonction de votre situation personnelle, de votre situation de santé. Les complémentaires, c'est le contraire. Vous avez une cotisation qui n'est pas proportionnelle aux revenus, à de rares exceptions près. Même la MGEN, qui est une mutuelle très vertueuse en termes de solidarité, je crois que la proportionnalité s'arrête à un certain niveau, elle est plafonnée. Et pour, si vous allez prendre une assurance privée individuelle, c'est totalement indépendant de vos revenus. On propose un tarif, donc il n'y a pas de redistribution sociale, ou très peu de redistribution sociale. Premier élément, majeur quand même en termes de... Et deuxièmement, vous êtes tarifé en fonction du risque. Vous savez bien que les cotisations de mutuelles ou d'assurance augmentent en fonction de l'âge. Et l'âge, c'est quand même le premier facteur de risque en matière de santé. Alors que dans l'assurance maladie, vous n'avez pas de tarification en fonction du risque, vous êtes vraiment sur une base de solidarité, pas d'assurance. Enfin, j'ajoute que, côté complémentaire, s'il y a une assurance maladie, tous les mêmes prestations, à situation médicale égale, les complémentaires sont évidemment très différentes. Il y a 10 niveaux de protection complémentaire. Si vous êtes cadre supérieur dans le secteur pétrolier, vous aurez une complémentaire qui n'a absolument rien à voir avec celle de l'ouvrier, d'un artisan boulanger. Alors, vraiment, absolument rien à voir. Et donc, la complémentaire apporte un élément de solvabilisation d'une partie des dépenses de santé, pas de tout. Je rappelle qu'il y a des complémentaires qui ne remboursent pas intégralement ticket modérateur. Mais vous avez des effets sociaux, des effets devant les inégalités sociales qui sont absolument sans commune mesure. Alors, pour finir, scénario pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour fixer les idées? Je vais prendre une hypothèse qui est une hypothèse qui avait été avancée par l'OCDE dans un rapport il y a quelques années, qui est que les dépenses de santé vont augmenter dans les pays en développés de 3,5 à 6% de PIB, donc de richesse nationale, au cours des années, je crois que l'échéance est 2050. Prenons une évolution de l'ordre de 5 points, 4 ou 5 points. Vous avez deux scénarios canoniques pour fixer les idées. Soit, premier scénario, vous dites, on veut préserver une sécurité sociale qui rembourse aux trois quarts la dépense de santé, la dépense de soins. C'est-à-dire rester sur le schéma actuel, même s'il y a cette déformation que j'évoquais entre les soins courants et les soins graves. Mais pour rester uniquement à ce niveau, pas pour améliorer la couverture. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a 4 points de dépenses de santé en plus et que vous voulez qu'ils soient remboursés aux 3 quarts par la solidarité nationale, c'est évident, il faut augmenter de 3 quarts de 4 points, c'est-à-dire de 3 points, la part de la richesse nationale qui est solvabilisée par les prélèvements obligatoires. Il faut 3 points de prélèvements obligatoires en plus pendant la période considérée. 3 points de prélèvements obligatoires, pour fixer les idées, c'est 6 points de CSG. Donc c'est un vrai effort collectif, à peu près du même niveau que ceux que nos parents ont fait dans les décennies précédentes. Deuxième possibilité. Non, les prélèvements obligatoires, ça suffit pour la santé. On va rester au niveau qu'on a atteint, de l'ordre de 7 points de prélèvements obligatoires pour la santé. Et donc, toute l'évolution des dépenses de santé sera prise en charge par d'autres, les complémentaires ou les ménages directement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Même calcul, la même règle de 3 conduit à dire que moins de 50% des dépenses de santé seront prises en charge à cette échéance par l'assurance maladie. Moins de 50% dépenses de santé, je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2015, il y aurait 70% dépenses de soins qui seraient consacrées aux ALD. Ça veut dire que, à l'échéance, si nous n'augmentons pas les prélèvements obligatoires, malgré la maîtrise des dépenses de santé, si nous n'augmentons pas les prélèvements obligatoires, ça veut dire que les ALD ne seront pas entièrement couvertes par l'assurance maladie, et qu'évidemment, les soins courants ne le seront plus du tout. Donc il y a 80% de la population qui n'aura plus un euro de remboursement pour ses soins de santé, puisque ce sont des soins courants. Il est évident que ce scénario ne peut pas se produire, car l'assurance maladie aura explosé entre-temps. Il est, à mon sens, politiquement, socialement inenvisageable de dire à une population « Vous ne recevrez rien si vous êtes malade, si vous avez une entorse, une angine, une gastro, et vous allez payer et vous allez mobiliser 7 points de prélèvement obligatoire pour une assurance maladie qui bénéficie aux plus gravement malades. » Je pense que ça, c'est un scénario qui est inenvisageable. Je pense qu'il faut maintenir le bon remboursement des soins courants si on veut maintenir le consensus extrêmement fort qui existe sur l'assurance maladie, puisque je vous rappelle que l'assurance maladie, comme d'ailleurs les hôpitaux, sont les deux services publics qui recueillent le plus d'adhésion de l'ensemble de la population dans toutes les enquêtes d'opinion. On est à 85%, qui est un taux absolument prodigieux. Et quand on demande aux gens si ça serait mieux sans le monopole de la sécurité sociale, vous avez une très faible proportion de gens, de moins de 30%, je crois, de mémoire, qui disent non. Et cette proportion baisse au fil du temps. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus attaché au monopole de la sécurité sociale. Qui est évidemment le scénario inverse du scénario où vous avez l'essentiel de la dépense de santé qui finit par être prise en charge par des assureurs complémentaires. Donc, c'est pour ça que je disais au début, on est dans un schéma dans lequel on est habitué, tous les ans, il y a un déficit de la sécurité sociale. Pas tous les ans, d'ailleurs, il y a des années où il y a eu des excédents de la sécurité sociale, mais on les oublie un petit peu. Enfin, c'est vrai qu'habituellement, il y a des déficits. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, anormal, puisque je rappelle qu'il n'y a absolument aucune raison pour que les ressources et les dépenses de l'assurance maladie s'équilibrent. Ils sont fondés sur des bases qui n'ont absolument rien à voir. Donc la coïncidence entre les recettes et les dépenses serait purement fortuite. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas le déficit, c'est le déficit qui dure plusieurs années. Parce que le déficit d'une année, c'est juste un problème d'ajustement. Il faut équilibrer le système, parce qu'il n'a aucune raison de s'équilibrer tout seul, compte tenu de sa constitution. En revanche, si on a un déficit qui s'accumule sur plusieurs années, là, c'est extraordinairement dangereux, parce qu'on ne peut plus remonter la marche en une fois, parce que augmenter d'un point ou deux points de CSG, c'est absurde, c'est pénalisant économiquement en termes d'impact psychologique, même si ça n'a pas d'effet sur le coût du travail global. Mais on sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, ça veut dire qu'on va réduire la protection sociale, ou pire, transférer aux générations suivantes à travers le transfert à la dette les déficits qui se sont accumulés. Et donc, on est habitué à ces déficits, on est habitué à ne plus les voir survenir. Cela dit, financé l'année qui suit. Mais il faut bien voir que c'est un phénomène qui ne peut pas durer éternellement. C'est comme quand on monte sur une balançoire, vous savez, les premiers pas, ça va très bien, et puis il y a un moment où, quand même, quand on fait le pas suivant, on repasse de l'autre côté. Ben, on est à ce niveau-là, aujourd'hui, sur l'assurance maladie. Si on continue à accumuler des déficits qu'on ne finance pas, ça veut dire que la protection va s'éroder progressivement, que la part prise en charge va baisser, qu'on ne sera plus à 50-55%, comme je disais, pour les soins courants, mais on va passer à 48, à 45, à 40, à 35, progressivement, et qu'on va dans le scénario d'explosion de l'assurance maladie que j'évoquais. Alors, c'est évidemment un scénario extrêmement important. Moi, j'avais appelé ça la politique du salami. Vous savez, on coupe l'assurance maladie en tranches fines parce que c'est plus facile à faire avaler. Parce qu'effectivement, 1,5 € de franchise, 1 € de forfait, des choses qui paraissent pas extraordinaires, mais elles s'ajoutent au ticket modérateur qui représente déjà 25, 30, 35, 45, 85% pour certains médicaments aujourd'hui. Et tout ça a pour résultat global le fait que bientôt notre dépense de soins sera moins financée par l'assurance maladie que par les ménages et les complémentaires. C'est un changement de système si on va jusque-là. Je vous remercie.